en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour cette invitation à laquelle je suis d'autant plus sensible que le sujet que vous m'aviez proposé m'avait dans un premier temps embarrassé. Et ayant réfléchi, j'ai tenté de le conceptualiser et j'espère y être arrivé. Mais j'aime bien qu'un sujet vous déplace et de l'extérieur vers l'intérieur. Politisation éthique de la morale. C'est un lieu commun de dire que la morale n'a jamais fait bon ménage avec le politique, qu'elle regarde parfois avec mélancolie, comme le dit l'académicien Alain Duhamel, pas plus que la raison d'État n'a été embarrassée par des considérations éthiques. Comme le disait René Raymond, la morale ne sauve pas une politique malheureuse. La politique, ou plutôt le politique, a toujours affirmé son droit de s'affranchir du contrôle de l'éthique, tout en reconnaissant évidemment l'existence de règles morales et d'un ordre éthique nécessaire pour les citoyens. Reconnaissance qui échappe au régime totalitaire, même si le communisme a eu pour spécificité de confondre sa finalité de renversement de l'ordre du capitalisme libéral au nom de son immoralité décrétée et son appropriation opportuniste de la moralité politique au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Cette schizophrénie politique et morale, au moins occidentale, car cette confusion pour les régimes totalitaires se passe de commentaires superflus, ne s'accompagne pas, bien évidemment pour autant, d'indifférence pour ce qu'on appelle les bonnes mœurs. En dehors des lois qui règlent les comportements sociaux déviants sur le plan criminel ou fiscal, notre pays a longtemps laissé cette gestion aux religions, aux églises. De leur côté, les églises, au moins chrétiennes, ont mis en pratique l'enseignement du Christ. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Gentleman agrément donc que celui de la raison d'État d'un côté et les règles morales destinées aux citoyens de l'autre, en grande partie encouragées par l'Église. Mais le caractère archaïque, avec le recul de 70 ans, d'un ordre moral et du culte des valeurs morales de Vichy, a contribué, à mon sens, par son artifice, à déshonorer le concept de morale, qui peu à peu s'est assimilé justement à un ordre politique qui demande à la loi et à la justice de fonder la répression de la licence des mœurs. Ce qui conduit la gauche à revendiquer la liberté de la vie privée selon une morale entrevue par, je pense, la lucarne de ses seules compromissions. Soudain, à la fin du XXe siècle, tout change. Le mot éthique se substitue dans la société, dans l'univers social, au mot moral vieillissant, même si les mots ethos en grec et mores en latin sont en fait synonymes. Mais l'éthique apparaît plus comme une revendication non normative d'une action perçue comme bonne. La morale comme une norme fixée de l'extérieur par une instance sociale ou religieuse non inscrite dans une temporalité. L'éthique ne revendique pas la temporalité. La morale la revendique. Si la politique, alors, pouvait s'affranchir de la morale considérée comme assez indifférente aux conditions de vie réelle, elle ne peut s'affranchir aussi facilement de l'éthique. D'où, et c'est le thème de ma conférence, l'appropriation croissante du contrôle de son usage pour ne pas se trouver sous le double feu de la critique d'adversaires politiques ou de redresseurs de tort. Le discours moral, en effet, contemporain, fait fuir. Quand le discours éthique intimide et fascine. Les citoyens eux-mêmes, et c'est toute l'ambiguïté, s'approprient ce discours en exigeant désormais que leurs représentants ne se considèrent pas comme soustraits à l'appréciation morale. Parce que derrière le concept éthique demeure caché celui-ci de morale, même s'il est occulté. Cette politisation de l'éthique, thème que vous m'avez proposé, est en effet une nouveauté absolument fascinante. Quel est le rôle des déclarations de Nuremberg, fonds baptismaux de l'éthique médicale? L'éthique médicale s'est constituée à partir de la déclaration de Nuremberg. Des diverses déclarations de droits de l'homme, des chartes, des droits d'ingérence au nom des principes supérieurs, démocratie, de la démocratie dite d'opinion, du développement des réseaux sociaux, des progrès scientifiques et technologiques qui déstabilisent des certitudes jusque-là immuables. Probablement, tous ces éléments interviennent dans ce changement de vocabulaire éthique en lieu et place de morale. Mais pour ma part, je ne traiterai que du domaine scientifique en raison de mon incompétence sur les autres sujets. Mais ce seul domaine scientifique laisse bien perplexe sur l'usage politique de l'éthique. Que signifie en effet, et ça m'a toujours paru très étrange, de désigner des lois du nom de bioéthique? Nous n'avons jamais eu dans le corpus législatif français des lois dites de morale. Alors que l'éthique est justement l'activité humaine qui est tout, sauf normative. Demander à l'éthique d'aider à définir un cadre légal est à la fois tout à fait légitime, mais contradictoire avec sa finalité qui est justement de remettre en cause sans cesse tout statut au nom des changements existentiels qui s'opèrent dans la société. Le politique, au lieu de demander un statut à l'éthique, devrait lui demander un éclairage sur les enjeux plutôt que de s'en servir pour encadrer par des lois les conduites à tenir. Ces lois, comme vous le savez, dites de bioéthique, concernent depuis 25 ans à peu près la greffe d'organes, l'usage des données génétiques et l'assistance médicale à la procréation. Je me limiterai au dernier sujet pour ne pas être trop long. L'évolution rapide des lois concernant l'assistance médicale à la procréation, toujours en retard nécessairement sur l'évolution rapide des technologies concernant le vivant, en offre un exemple tout à fait caricatural. Car étant les seules lois initialement soumises à une obligation de révision quinquennale en fonction des avancées technologiques, le politique, dans sa dernière révision, a peu à peu perçu les inconvénients de cette obligation qui fragilise toute loi. Une loi qui est prévue, révisable dans 5 ans, perd de sa force. D'autant plus que, entre 2 révisions, les décrets n'ont pas le temps d'être tous publiés et puis que la science n'attend pas 5 ans pour bouleverser l'existant. Mais le politique n'aime pas être pris au dépourvu. Il a donc supprimé, en 2011, cette obligation de révision, retrouvant ainsi sa liberté de jugement, mais pas l'éclairage éthique nécessaire. Ainsi, l'assistance médicale à la procréation, qui était réservée aux couples hétérosexuels, existant depuis plus de 2 ans. Le caractère normatif de plus de 2 ans a disparu avec la nouvelle loi. Le couple est ainsi devenu une simple virtualité qui est réduite à la demande expresse d'un homme et d'une femme. L'absence de durée offre ainsi des possibilités opportunistes infinies qui se rapproche de la procréation naturelle, à la seule différence qu'elles sont prises en charge et financées par l'État. Mais l'âge des couples, en particulier celui de l'homme, on sait que les femmes la loi le fixe, je crois, 45 ans. Mais l'âge de l'homme est une vraie question éthique évacuée. L'État doit-il aider un père de 85 ans, qui ne le pourrait pas naturellement, à procréer ? Alors que l'on connaît parfaitement les risques pour l'enfant d'une procréation paternelle à cet âge. De même, faut-il aider une femme à accueillir un embryon congelé, issu des gamètes de ce couple, lors de l'agonie de son conjoint qui va mourir dans les jours ou les semaines, alors que le transfert d'embryon post-mortem est interdit, mais la loi ne dit pas que l'interdiction concerne l'agonie. Autrement dit, la loi dit que le père doit être vivant au moment de cet accueil, il ne dit pas qu'il doit être encore vivant ou en bonne santé. La loi ne dit donc rien dans l'un et l'autre cas. Elle fixe des normes françaises qui ont la particularité d'être totalement indifférentes à une transcription européenne et ne sont pas éthiques au sens propre du terme, mais médicales. D'ailleurs, la Sécurité sociale, embarrassée par ces situations, rembourse partiellement des inséminations pratiquées hors de France, en Belgique, en Espagne, pour sauvegarder quelques principes au détriment du réel. Les droits de l'embryon congelé, dépourvu de projet parental, à ne pas être utilisé pour la recherche, ont longtemps fait oublier l'absence de droit d'un fœtus à ne pas être avorté au 9e mois, quelques minutes avant sa naissance, en raison de la découverte au dernier moment de malformations. Mais la peur du politique d'aborder les questions si tendues dans notre moment contemporain de l'interruption volontaire de grossesse, même si la France n'est pas actuellement confrontée à cette question espagnole, l'empêche d'aborder les questions éthiques difficiles de l'interruption dite médicale de grossesse d'un fœtus qui serait un nouveau-né quelques minutes plus tard. Et dans ce domaine, il faut savoir que la France et Israël sont les seuls pays au monde à permettre l'interruption de la vie d'un fœtus quelques minutes avant sa naissance. C'est un féticide qui n'est pas contredit par la loi, qui n'a pas d'existence légale, alors que si le nouveau-né, en raison de malformation, est tué à sa naissance, c'est un meurtre. La vraie question éthique serait quel droit a l'enfant à naître ? Mais cette question si difficile comporte le risque permanent d'une remise en cause de l'interruption volontaire de grossesse, considérée à juste titre comme une liberté, non pas, comme on le croit trop souvent, de la libre disposition du corps de la femme, par elle-même, mais comme le droit d'être aidée médicalement à interrompre une grossesse, plutôt que de risquer d'en mourir. Le lien incestueux entre politique et éthique doit donc être canalisé sur les seules questions qui ne mettent pas en jeu le consensus social. En un mot, les lois, au nom de l'éthique, font l'impasse sur les questions éthiques brûlantes, une sorte d'alibi éthique. Toutes ces questions sont évacuées, alors que la vraie question serait quel souhait privé menace le vivre ensemble ? Par exemple, le don bénévole, anonyme et gratuit de gamètes, n'est-il pas menacé par la possibilité d'accès des couples homosexuels à ce don ? Les donneurs seront-ils indifférents au destin de leurs gamètes ? Et on a assisté depuis quelques mois à une diminution des donneurs, craignant éventuellement que leurs dons soient accessibles à des couples homosexuels. Ou encore, quelle exploitation de l'autre permet de faire advenir un progrès scientifique ? Autre sujet, que signifie la création politique en 1983 du premier comité consultatif national d'éthique au monde, le CCNE, à la demande de Jean-Pierre Chevènement, Après la naissance, par fécondation in vitro d'Amandine, qui doit avoir 31 ans ces jours-ci, comme si soudain, l'effroi du politique était lié à son inquiétude d'avoir un corpus de loi totalement inadapté à la nouvelle réalité de l'humain. Le CCNE s'est pris au jeu en rendant depuis 30 ans des avis sur l'ensemble des questions concernant le vivant humain. Avec cette ambiguïté d'avoir à répondre aux questions du politique, souvent pour la rédaction d'une loi concernant ces sujets. Le CCNE n'a aucune légitimité de représentation nationale. Sa seule expertise est son mode de fonctionnement, fondé sur une éthique de la discussion, de la responsabilité, et non sur une éthique de conviction. La morale, elle, n'est ni de conviction, ni de responsabilité. Mais quand le CCNE sort de son territoire, purement scientifique, dans un avis qui, par exemple, analyse l'usage des données génétiques destinées à vérifier chez un migrant la parenté de son enfant avec lui-même, inscrit dans la loi, ce texte a fait l'objet d'un avis du CCNE qui posait la question jugée impertinente de la discrimination en cause sur le plan éthique. Ou alors quand le CCNE s'est insurgé contre les conditions indignes de l'emprisonnement en France, contre les dérives de financement de certains soins hospitaliers, l'indifférence à l'accueil des autistes dans notre pays qui doivent se rendre pour un grand nombre d'entre eux en Belgique. Le CCNE est alors accusé de sortir de son champ de compétences. Il n'est pas là pour aborder les questions de société en général, mais pour se limiter à celles que pose l'usage des biotechnologies et des progrès de la science. Mais cette protestation agace le politique, qui considère alors la réflexion éthique comme un abus de pouvoir du CCNE. Je me souviens du désaccord absolu d'un ministre de la Recherche devant notre avis qui demandait que les gènes ne puissent pas faire l'objet d'un brevet. Nous menacions l'avenir de la recherche française. Intéressant de voir que les États-Unis viennent d'interdire, il y a quelques semaines, la brevetabilité du gène. Autrement dit, la réflexion éthique ne doit pas déplaire au pouvoir politique, mais le conforter. Et quand la demande d'une société est réputée de l'ordre de l'éthique, le CCNE est là pour y répondre. Mais ses limites sont fixées et ses autosaisines sont souvent plus ou moins bien vues. Admettre d'ailleurs le mot bioéthique, c'est un mot étrange, venu des États-Unis comme s'intéressant seulement à l'éthique du vivant, au bio. C'est très étrange, car c'est à un vivant seulement humain, et je dois cette réflexion à mon ami le président Jean-Claude Amezen, à un vivant seulement humain qui s'adresse, pas à un vivant animal ou végétal. Il y a en éthique, pour la politique, de bio que l'humain. Parce que aborder le bio non humain exposerait alors à des questions autrement plus importantes économiquement que la façon simple de concevoir un enfant. Le CNE, par exemple, n'a jamais abordé la question des OGM ou du droit des animaux, ou lorsqu'il l'a été en la personne de son président en 1999, à la demande du Premier ministre Lionel Jospin, il a établi un rapport à visée éthique sur la culture des OGM, dépassant les pugilats habituels dans notre pays des experts et des citoyens. Et ce rapport a fini comme finissent habituellement les rapports, à la trappe. 15 ans après, en 14, ce rapport qui se voulait éthique aurait sans doute évité bien des échecs politiques. L'éthique s'introduit plus que la morale dans le débat politique droite-gauche. La droite en fait un enjeu conservateur des traditions, la gauche un enjeu des libertés individuelles au prix du renversement de ces traditions, ce qui suscite une éthique de droite, une éthique de gauche, une éthique rationaliste, voire une éthique de l'anarchisme qui prône une liberté totale. Le CCNE n'a heureusement pas été contraint de donner un avis pour la loi sur le mariage pour tous. D'ailleurs, le mot « mariage » en passant signifie « union des gamètes ». Mais sur les possibilités offertes par la loi d'accès à la procréation des couples homosexuels, son avis sera jugé déterminant. Quelle responsabilité ! Sa fonction pourtant n'est pas de prendre parti, mais d'explorer les enjeux, masqués ou non, les impasses, les incidences pour l'ensemble de la société. Il n'est pas là pour donner un blanc-seing ou censurer. La liberté du CCNE réside parfois dans son insolence, sa capacité d'interroger la loi, laissant aux politiques le soin d'en tirer les conséquences. C'est sa noblesse. Sur la fin de vie, le CCNE est interrogé, réinterrogé, voire sommé. Son avis sera important. S'il suit les propositions politiques, il sera accusé de devenir la courroie de transmission du politique. S'il se met en travers, il sera accusé de conservatisme par un gouvernement de gauche ou de progressisme par un gouvernement de droite. D'où la bonne réponse, hétérogène, du CCNE, sinon hétérodoxe. Lors du renouvellement, il y a quelques mois, d'un certain nombre de membres du CCNE, la société civile, certains médias, certains responsables politiques ont protesté contre les choix de nomination par le politique qui pouvaient donner le sentiment d'un choix orienté en fonction d'intérêts opportunistes. Je peux garantir que les personnalités nommées ne l'ont pas été en fonction de choix politiques opportunistes. Mais si le politique demande aux membres du CCNE de le sortir d'embarras, il tombe alors dans le piège du choix orienté de ses membres, ce qui réduit d'autant la crédibilité de l'institution. Mais peut-être le CCNE aurait-il dû aller plus loin. L'euthanasie n'est ni éthique, ni non éthique. D'autant plus que les mots, comme le dit Claude Simon dans Orion aveugle, à la résonance un peu fanée comme la couleur des affiches, autonomie, dignité, vulnérabilité, liberté, dépendance, valeurs même, seront utilisées de façon partisane en faveur de la mort choisie ou pour s'y opposer. Car l'éthique est plus que toute autre activité humaine prise au piège des mots, qui finissent par être des vecteurs plus de l'étiquette éthique que d'une véritable pensée. L'éthique, c'est ce qui est l'acceptation de l'autre avec la remise en question permanente de ses convictions au regard justement de l'autre. Ce n'est pas être nulle part, ce n'est pas ne pas avoir de conviction, c'est remettre en question à la lumière de l'autre ce qui est en jeu dans son propre pouvoir par rapport à ses convictions. Ça ne veut pas dire qu'entre l'ignoble et le noble, entre l'insupportable et le supportable, il n'y ait pas la volonté d'inscription d'une idée de l'homme, mais méfions-nous d'une éthique comme usine à concept plus opportuniste que critique. Si l'euthanasie est un vœu de la plupart des citoyens, d'après les statistiques, l'éthique serait alors une façon de résister à donner des réponses abusivement qualifiées d'éthique aux questions cruciales de société. Frédéric Worms, qui est professeur de philosophie à l'École normale supérieure, me disait il y a quelques semaines que l'éthique est un moment de surgissement, jamais figé dans son essence. Par exemple, en faisant émerger la torture comme l'envers du soin, elle pointe la dimension sociale et politique du soin en maintenant ensemble ce qu'on appelle le cure et le care. Nous n'avons qu'un seul mot en français qui est le soin. Les anglo-saxons en ont deux, le cure qui est le soin curatif, le care qui est le soin sinon palliatif, qui est la sollicitude, l'attention. Sans que l'un empiète trop sur l'autre. Le risque est alors en focalisant au contraire le débat politique sur une binarité éthique, de réduire le soin à des slogans légaux ou illégaux, au détriment de la relation au malade, de ses droits, de sa liberté et de la perte de sens du soin. La césure excessive, par exemple, qui a été, au fond, l'antienne de ce rapport au président de la République durant l'année 2012, césure entre soins curatifs et soins palliatifs, est une des sources, à mon sens, de l'inquiétude citoyenne, comme s'il fallait attendre d'avoir à mourir dans les 15 derniers jours, comme s'il fallait attendre la fin de sa vie pour que le care hospitalier entre en jeu. La question éthique est le tressage permanent, nécessaire entre les deux, entre le cure et le care. Le soin est avant tout éthique, avant d'être curatif ou palliatif. Ce qui est devenu le risque majeur de l'éthique au sens politique du terme est son institutionnalisation, son instrumentalisation dans tous les sens du terme. Ligne de conduite, charte, accréditation, éthiciens même, qui deviennent autant d'enjeux de pouvoir et non la possibilité d'interroger et de penser la complexité. La société du spectacle de Debord devient peut-être la société de l'éthique à tout vent. Les conséquences en sont multiples. Tant que l'éthique réduit son espace aux biotechnologies concernant le vivant, le marché se soustrait ou se libère du jugement, de la morale ou de l'éthique. La France, par exemple, est le seul pays qui interdit la marchandisation du vivant, à peu près le seul, par souci de protection des plus vulnérables. Mais notre pays hésite bien souvent à affronter les questions éthiques graves concernant, par exemple, les marchés financiers. Car il sait ou découvre que le réel reste bien indifférent à la non-éthique de ces marchés, comme si l'éthique devait avoir un territoire d'intervention autorisé. La prudence des actions entreprises, certes avec une bonne volonté récente, n'est pas à la hauteur des enjeux éthiques. On assiste alors à la disparition des valeurs collectives auxquelles le sujet peut se référer. Le politique se sent moins concerné par des valeurs traditionnelles qu'il voudrait tenter d'aménager justement au nom de l'éthique, avec la tentation opportuniste, quelquefois, de la réélection. Les jugements généraux se perdent au profit d'outils d'ordre éthique incapables d'évaluer le poids des intérêts privés en conflit. La conscience du long terme se perd au profit du hic et du nonc. Le principe de précaution, par exemple, utilisé selon des géométries variables, est un principe aussi peu éthique que moral. Tantôt, ce principe est appelé à protéger la France des importations anglaises de viande bovine en raison du maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec des arrière-pensées économiques qui étaient bien au-devant. Tantôt qu'il est sommé de rester sourd aux inquiétudes des scientifiques concernant le risque cancérigène, pourtant avéré et prouvé, des particules diesel. La politisation de l'éthique conduit à la perte progressive de la notion d'intérêt général. Ainsi, dans un domaine qui m'est cher actuellement, où le président de l'Institut des données de santé est présent, Christian Babusio, dans notre pays, l'indifférence aux données réelles de santé pour penser les stratégies de santé publique du futur constitue, à mon sens, un manquement à l'éthique. Décider des stratégies sans données, alors qu'elles sont disponibles, est le comble d'un pouvoir aveugle. Ne pas les utiliser pour ne pas avoir affronté des lobbies divers est très irresponsable. On peut comprendre qu'à force d'opportunisme éthique, ce mot finisse par devenir un cache-sexe pour chaque parti qui s'en prévaut sans mesure. Pour conclure, Paul Ricoeur disait, j'ai eu la chance de le connaître et d'être influencé par sa pensée, vivre avec et pour les autres au sein d'institutions justes pourrait définir, à mon sens, une vraie politique éthique et donnerait plus de sens à la vie sociale. Mais une éthique procédurale et opportuniste actuellement développée et mise en œuvre anéantit ce projet. Plutôt que de demander à des règles éthiques de le protéger, le politique devrait s'interroger sur ses propres pratiques, sur ses finalités de courte durée sanctionnées par une élection, sur ses enjeux de pouvoir. En outre, à force de demander à l'éthique une protection souvent démagogique, le politique la confine à des domaines souvent sans véritable incidence économique ou stratégique majeure, car les véritables enjeux ne sont alors jamais clarifiés ni questionnés. Mais peut-être plus grave encore, Elle confère à l'éthique un statut, alors que celle-ci ne vit que de résistance au conformisme, résistance aux situations acquises et aux questionnements fussent-ils inattendus. Elle est là pour éclairer la complexité des problèmes, pour contribuer à la réflexion collective. Elle ne détient ni pouvoir, ni vérité, pas plus qu'elle est une expertise qui donnerait la voie à suivre. Résistance, surgissement, justesse, ouverture, contredisent, soumission, enfouissement, choix opportuniste, fermeture. Le politique, en confinant l'éthique à un vocabulaire qu'il s'approprie ou à des domaines jugés sans réelle importance stratégique, contribue au désenchantement, alors qu'il pourrait lui demander justement un éclairage permanent pour réenchanter le sens réel d'une action. Je vous remercie.
Ce bilan très ferme, vous avez osé prendre position et je vous remercie de ce courage intellectuel et moral et sans doute aussi politique. Et je ne doute pas que votre propos va susciter des questions et des observations multiples. Je voudrais d'abord donner la parole à Madame Delmas Marty.
Merci, Monsieur le Président, et merci aussi, Monsieur le Président Sicard, pour ce bel exposé qui ouvre énormément de pistes de réflexion. Alors, je voudrais plus particulièrement évoquer deux points. L'interface sur laquelle vous avez présenté vos observations, c'est au fond l'interface politique-éthique. Mais quand vous avez parlé de la marchandisation du corps, par exemple, vous avez fait entrer les aspects économiques. Et je me demandais en vous écoutant si, au fond, ça n'est pas de plus en plus la question avec les marchés qui se créent, les marchés d'organes, la possibilité de faire appel à des mères porteuses en s'adressant à elles par Internet, ce qu'on appelle le baby business. Est-ce qu'il n'y a pas une véritable interface à trois dimensions ? Le politique, l'éthique et l'économique. Et est-ce qu'au sein du comité d'éthique, il n'y a pas de plus en plus de questions qui touchent à cette marchandisation ? Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je m'interroge, et je sais que vous y avez vous-même, M. Sicard, beaucoup réfléchi, c'est quel est le niveau adéquat pour penser ces questions, cette interface à deux ou à trois composantes ? Est-ce que c'est nécessairement, est-ce que c'est uniquement le niveau national ? Dans la mesure où, justement, il y a ce grand marché qui se met en place, est-ce qu'il ne faut pas simultanément mener la réflexion, ce que vous avez fait au sein du CCNE, avec d'autres comités, d'autres pays, donc une réflexion au niveau régional et puis au niveau mondial ? Parce que certaines des questions peuvent être tranchées d'une manière par un pays, d'une autre manière par un autre. Et finalement, c'est la pratique la plus ouverte qui l'emportera sur les autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté supplémentaire et des amorces de réponse ?
Merci. Monsieur Michel Febro.
Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai moi aussi trouvé que cet exposé permettait d'ouvrir beaucoup la réflexion. Je voulais poser une question qui est assez proche de celle que vient de poser notre confrère, qui est de quelle façon envisagez-vous en effet la question de l'éthique dans un contexte de mondialisation ? Vous avez évoqué dans votre introduction les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, qui effectivement ouvre peut-être, si je puis dire, une piste dans ce domaine et peut constituer un précédent. Mais dans la mesure où vous avez abordé un certain nombre de questions économiques, en particulier celles des marchés financiers qui sont aujourd'hui mondialisés, comment voyez-vous le traitement de la question de l'éthique dans le cadre d'une économie et de finances mondialisées.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter moi aussi M. Sicard son exposé. Et je voudrais faire un petit peu l'avocat du diable sur les deux mots éthique et morale. J'essaie de raisonner froidement, mais je me méfie toujours quand on remplace un mot par un autre, inspiré par ce que disait Orwell de la novlangue. Par exemple, quand on a remplacé civique par citoyen, autrefois respecter l'ordre c'était civique, aujourd'hui s'insurger c'est un sursaut citoyen. J'ai l'impression qu'un mot finit par dire l'inverse de l'autre. Alors si j'essaie de raisonner froidement, pour moi, au fond, la morale, c'est l'art de rendre visible les devoirs impératifs qui s'imposent à moi dans la recherche du bien. Et si je comprends bien de ce que devient l'éthique, c'est plutôt un art de rendre raisonnable, socialement, mes besoins, ma recherche du bonheur, ou de la rendre supportable à autrui. Et du coup, mais je me répète, je fais l'avocat du diable, M. Sicard. Je me demande si, au fond, l'éthique n'est pas une manière de transformer la morale en application concrète, y compris dans les domaines alimentaires, M. Babusiaud, dans tous les secteurs. Et si finalement, au fond, l'éthique n'est pas là pour légitimer ce qui ne serait pas normalement moral, au fond. Comme vous l'avez dit, au fond, pour l'euthanasie.
Merci. Madame Chantal Delsol.
Je suis un petit peu sur le même... Je suis sur la même question que Monsieur Darcos. Je voulais vous demander si vous pouviez préciser la distinction entre éthique et morale, parce que j'ai pas vraiment compris pourquoi. Vous dites que la morale a été profanée par Vichy, bien sûr, et beaucoup de choses d'ailleurs ont été profanées au XXe siècle, et notamment effectivement cela. Mais alors, vous dites que l'éthique apparaît. Apparaît plus comme une revendication non normative. Je vois pas très bien ce que vous voulez dire là. Je vois l'éthique elle-même, ce qu'on appelle éthique. Au fond, j'ai l'impression qu'il y a simplement un changement de mot. D'ailleurs, je me fie en cela à ce que dit Ricoeur aussi, qui dit qu'entre éthique et morale, finalement, c'est simplement un changement de mot. Alors, c'est important, les changements de mots, bien entendu. Je vois l'éthique comme une norme fixée de l'extérieur par un gouvernement qui l'impose au peuple. C'est ainsi que vous donnez la définition de la morale. Vous dites que la morale est une norme fixée de l'extérieur par une instance, mais l'éthique agit aussi de cette façon. Regardez l'affaire Dieudonné, qu'est-ce que c'est ? Voilà une norme qui nous tombe de l'extérieur, et finalement, on n'a pas le choix. Enfin, l'intéressé en question n'a pas le choix. On n'est pas dans vos domaines, bien entendu, mais je ne vois pas très bien la différence. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît ?
Merci. Monsieur Bachelet.
J'avais deux questions. La première a déjà été posée deux fois. Pouvez-vous nous préciser, mais de la manière la plus rigoureuse possible, la différence que vous introduisez entre éthique et morale ? Je crois qu'il y a une différence, ça figure en grec déjà, mais quelle est votre interprétation ? Ce n'est pas la mienne qui importe. Et deuxième question qui est... Non, qui n'est pas plus importante. Mais vous avez, c'était votre sujet, essayé de préciser l'interface entre politique et éthique, ou morale, peu importe. Il y a la question de fond, me semble-t-il, est la suivante. Soit une proposition qui énonce ce qu'il convient de faire si on est un être humain conforme à sa vocation, si vous voulez, ou qui est interdit de faire, d'un côté. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, et comment justifier le fait que soit énoncée une législation pour imposer aux acteurs sociaux d'avoir à respecter l'éthique ? Autrement dit, qu'est-ce qui relève du choix individuel, de la décision individuelle, privée, c'est intime et privée, d'une part, et d'autre part, du public et du politique ? La distinction, me semble-t-il, est essentielle et ses conséquences ne vont pas de soi. Alors j'aimerais avoir votre sentiment sur ce point.
Merci. Monsieur Bertrand Collomb.
Oui, j'ai trouvé, comme nos confrères, votre exposé extrêmement intéressant. Mais je vais revenir un petit peu également sur morale et éthique, parce que moi, j'ai présidé pendant un certain nombre d'années un groupe qui avait des principes moraux, qui ne dataient pas de moi d'ailleurs, qui dataient d'il y a très longtemps, mais qui refusaient d'avoir un code d'éthique appliquant le principe de l'Évangile, la lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, c'est une position que nous n'avons pas pu tenir indéfiniment, car dans le fond des principes moraux, ça veut dire la différence entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et il fallait une dizaine d'années à quelqu'un qui rentrait dans ce groupe pour être bien sûr qu'il avait intégré les principes moraux qui étaient à la base du comportement de ce groupe. Et quand les choses vont très vite, quand on acquiert des sociétés de différents pays, de différentes cultures, etc., au bout d'un certain temps, les gens vous disent « mais non, on a besoin d'avoir des choses beaucoup plus concrètes ». Donc on a fini par faire un code d'éthique, en sachant que dès qu'on écrit quelque chose dans un code d'éthique, on crée ce que les anglo-saxons appelleraient un « loophole », qui permet de faire quelque chose d'immoral, mais conforme au code d'éthique. Je crains malheureusement qu'effectivement on soit vers une dérive de règles opérationnelles. Alors bien entendu, nos confrères juristes, et en particulier les pénalistes, vont nous dire on ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire quelque chose, en tout cas on ne peut pas l'envoyer en prison pour avoir fait quelque chose qui n'est pas strictement défini dans la loi de façon extrêmement précise. Donc il y a une contradiction entre ce côté... disons, non toujours descriptible de la morale et l'obligation de précision opérationnelle. Mais quand on discute de savoir si l'interruption de grossesse peut être faite après X semaines ou Y semaines, c'est plus une question morale. C'est une question technique. Alors, je voudrais savoir comment vous réagissez et est-ce que vous pensez que le mouvement vers lequel nous sommes est inexorable, c'est-à-dire qu'on va aller avoir de plus en plus de règles, de plus en plus techniques, et où l'idée morale sera de plus en plus lointaine.
Merci. Monsieur Ménard.
Oui, je voulais revenir sur l'ensemble de la question. Il me semble qu'il y a deux termes qui ont fait l'objet de discussions quasi interminables, c'est les termes moral et éthique. On ne s'est pas interrogé sur le terme « science ». Et il me semble que ce terme, il intervient aussi dans nos débats. Parce qu'il peut y avoir plusieurs façons de concevoir la science. Et il peut y avoir des interférences entre la science et des attitudes qui lui sont extérieures. Ce qui est objet de recherche est généralement commandé à un moment donné de l'évolution par des besoins plus ou moins légitimes, plus ou moins justifiables, plus ou moins moraux ou éthique. Donc, tout cela n'est pas séparable. Et d'autre part, la science peut elle-même avoir son idéologie, être gouvernée par des idéologies. Si bien que le résultat obtenu par des méthodes scientifiques est un résultat orienté. Et un résultat qui ne va pas au fond des choses. Pour poser le problème en entier, il faut maintenir l'égalité des trois termes. Voilà mon avis.
Merci. Monsieur Pebroder, chef.
Oui, je suis confus de demander à nouveau la parole, contrairement aux usages, mais c'était pour ajouter quelque chose à la question de Bertrand Collomb, en quelque sorte... pour des raisons symétriques. C'est-à-dire que dans mon groupe, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, nous estimions que la vie de banquier était une vie qui devait être guidée par un certain nombre de normes morales qui étaient celles de notre société. Et que ces normes étant celles de notre société, nous n'avions pas à les préciser. Il appartenait à chacun de se conformer aux normes morales de la société. La société évoluant, nous avons été conduits au cours des dernières années à nous interroger sur l'élaboration d'un code éthique. Et donc, nous avons défini un code éthique lors de la présentation que j'avais faite de l'évolution de la banque dans la banque française dans le monde au cours des séances précédentes, j'avais été conduit à insister sur ce point en indiquant que l'évolution sociale faisait que, notamment dans la relation avec nos clients, nous avions été conduits à élaborer un code éthique de la relation avec le client, qui est un code et que nous avons cette fois-ci écrit. Voilà, alors je voulais simplement verser cela au dossier pour vous permettre de compléter votre réponse à la question de Bertrand.
Merci. Monsieur Guillaume.
Monsieur le Président, simplement pour compléter cette réflexion, je voudrais dire que dans le domaine juridique, il y a maintenant une pression croissante pour créer des codes d'éthique pour les avocats, pour les juges. Et tout ceci me paraît extrêmement dangereux, parce que lorsqu'on tombe dans la norme technique précise, comme les anglo-saxons l'aiment et qu'ils les multiplient dans ce domaine, on tombe automatiquement, en même temps que dans la norme, dans la recherche de la fraude. Et je crois que la multiplication des normes est quelque chose d'extrêmement contestable. Et je rejoins sur ce point ce qui a déjà été dit par certains. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Trichet.
Je rejoins nos consoeurs et nos confrères dans l'éloge qu'ils ont fait de cet exposé qui était absolument remarquable. J'ai deux questions. La première, ce serait d'avoir votre commentaire sur l'interface entre éthique, telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans nos sociétés avancées, et l'idée de transparence. L'Académie, l'Institut, s'était penché sur le concept de transparence qui est extrêmement puissant et dont on observe la montée en puissance dans tous les pays avancés. Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que la transparence fait partie de l'éthique dans toutes ces applications, dans ces divers domaines d'application? Deuxième question, est-ce d'une naïveté extraordinaire que de dire, dans le fond, est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, avec sa formulation assez précise, n'est pas une sorte de commun facteur à l'ensemble des morales religieuses ou laïques qui, dans une société donnée, sont considérés comme méritant précisément pour assurer la cohésion de l'ensemble de la société, d'être affichée en quelque sorte et d'être transparente, d'être visible. Merci.
Merci. Monsieur Vacheron.
Merci, Monsieur le Président. Oui, mon cher Didier, j'ai apprécié ta communication comme l'ensemble de nos confrères ici présents. Et je voulais te poser une question à propos du fonctionnement du comité d'éthique du CCNE. L'un de ses privilèges, je crois également l'un de ses atouts, est la collégialité de la réflexion qui constitue un garde-fou vis-à-vis des interprétations personnelles de la légitimité morale. Et les conclusions du CCNE font, je crois, l'objet de votes. Et je voudrais savoir s'il y a souvent des divergences importantes dans les réflexions des membres.
Merci. Extrêmement, extrêmement riche. Vous avez été, me semble-t-il, fort sévère pour le politique. Quelle devrait, selon vous, être sa démarche, sa préoccupation, dans une intervention de sa part vis-à-vis des questions pratiques et des questions morales. Deuxièmement, vous avez été également très sévère en ce qui concerne l'éthique telle qu'elle a pu être pratiquée. Elle intervient avec la préoccupation essentiellement de l'instantané, et non pas
pour le long terme, elle intervient pour des préoccupations, et c'est lié, qui sont particulières et non pas générales et universelles. Elle ne peut d'ailleurs pas créer ou apporter des solutions. Elle a, me semble-t-il, à vos yeux, essentiellement un rôle d'information et d'éclairage et une dimension critique. Que devrait-elle être si la morale doit être réinsérée dans un cadre concret qu'on pourra appeler ce cadre éthique? Ma troisième question porte sur la morale. Vous avez dit qu'elle n'était ni de conviction, ni de responsabilité. J'aimerais savoir ce que vous entendez essentiellement par là. Et enfin, quatrième et dernière question, vous avez dit que derrière l'éthique, c'était toujours la morale qui se cachait. Est-ce que je dois comprendre que l'éthique, en ce qui concerne son origine, ne renvoie pas essentiellement aux politiques, mais à la morale, comme si elle était une ruse de la morale permettant à celle-ci de se maintenir avec sa démarche fondamentale qui est normative, qui ne se contente pas d'avoir rapport aux valeurs, mais qui reconnaît les normes. La décision de suivre celle-ci incombe finalement à la conscience morale intérieure de chacun. Si vous voulez, dans tout ce processus, qui est le véritable sujet, le véritable auteur? Est-ce que c'est le politique ou la morale? Merci. Monsieur le Président, vous disposez de 3 quarts d'heure, si vous le souhaitez, pour répondre aux questions diverses qui viennent de vous être posées, et nous attendons avec impatience votre seconde conférence.
Monsieur le Président, les mots se heurtent toujours à un paradoxe. Le paradoxe a été souligné par divers académiciens sur le fait que les codes éthiques se multiplient, le code des pompes funèbres, des boulangers, de toutes les activités humaines, alors que justement l'éthique est a priori obsédée par son caractère non normatif. Et qu'on assiste au paradoxe d'une éthique normative qui se substitue par la critique des normes à une morale qui se voudrait normative. Donc on voit très bien que l'usage opportuniste des mots finit par embrouiller et par faire perdre à l'ensemble de la société des repères. Et c'est plutôt justement cette perte de repères dans notre société qui font que ce soit l'histoire, que ce soit les sciences. On voit très bien comment il y a une face noire de la science qui a abouti à des massacres au nom de la science, au nom de l'usage opportuniste des avancées scientifiques. Il y a une pièce de théâtre qui se joue actuellement sur Fritz Haber, qui a été ce prix Nobel de chimie en 1919 et qui a été à l'origine des gaz hyperites, et qui a été à l'origine simultanément de l'ammoniac comme fertilisant et qui a permis de sauver des millions de vies humaines, mais qui en même temps était à l'origine du zyklon B qui a exterminé un certain nombre de millions d'êtres humains, en particulier de juifs. Donc on voit très bien que
la façon du rapport au fond de la morale et de l'éthique aux normes est très ambivalent. Avant de répondre à chacune des questions, pour vous donner, en tout cas, tel que je le perçois, dans ma fragilité, dans ma faillite peut-être, c'est que quand j'avais rencontré Paul Ricoeur lors d'un avis du CCNE en 2004 ou 2005 qui nous avait été posé, je prends un exemple concret, qui était, est-ce que une mère peut donner naissance à un enfant ayant précédemment un enfant atteint de leucémie et dont la médecine dit qu'il pourrait être éventuellement sauvé par une transfusion de cellules de son sang placentaire ou de sa moelle. Cet enfant n'existe pas encore, mais que si cet enfant existait et qu'il était apparenté génétiquement, la médecine pourrait proposer à cet enfant à venir que sa moelle ou ses cellules soient utilisées pour guérir le premier enfant qui est en train de mourir d'une leucémie. Je me souviens très bien que quand j'ai reçu cette demande, ma première réaction a été de dire, de façon un peu primaire, je ne me vois pas président du Comité consultatif national d'éthique aller dans un avis qui fait d'un enfant un instrument de guérison d'un autre enfant. Cela me paraissait de l'ordre de la morale, moralement insupportable. J'en ai parlé à Paul Ricoeur, et Paul Ricoeur, dans son humilité, me dit « Alors vous allez dire à cette mère de famille dont l'enfant est en train de mourir d'une leucémie, moralement, sauver votre enfant est inacceptable. » Entre le pire et le mal, il faut peut-être éviter le pire. Et que il faut peut-être trouver le moyen que cette mère prenne conscience que cet enfant est d'avant tout un enfant et puis qu'effectivement, il puisse venir en aide. Et au fond, la question était, est-ce que ma conviction morale ou éthique, j'utilise les deux termes parce que je ne sais pas très très bien à ce moment-là, est-ce que c'est dans mon histoire personnelle, au fond, dans mon éducation, qui est une éducation protestante, qui est une éducation peut-être assez, sinon rigoureuse, mais au moins qui a été balisée de repères extrêmement, extrêmement précis. Est-ce que cet avis que nous avons donné, qui a ouvert la possibilité de mettre au monde un enfant pour éventuellement en traiter un autre, était un sujet qui blessait la morale ou qui blessait l'éthique ? Je ne sais pas s'il blessait la morale, toujours est-il que l'éthique dans ce domaine était de prendre en compte la singularité de cette situation en n'évitant pas, en ne se recouvrant pas la tête d'une sorte de paravent ou en se recouvrant d'une protection apparente. Je sauve l'enfant, oui, ou bien je sauve l'humanité parce que je ne permets pas qu'un enfant naisse pour un autre, et que ce débat en grande tension montre que à un moment donné, l'éthique est engagée dans sa responsabilité, non pas de donner le chemin, mais de mettre le politique, c'est-à-dire celui qui, dans sa noblesse, aura à décider, devant des enjeux sans forcément lui donner ou un feu rouge, ou un feu vert. Alors, plusieurs questions sont venues sans arrêt sur la différence entre morale et éthique. Le problème, c'est un sujet de dissertation qui pourrait être proposé en terminale, et je pense que les réponses seraient très variées, mais peut-être que j'ai pris la question au sens sociétal du terme, c'est-à-dire comment le mot morale, quand les enfants reviennent de classe et qui disent « je ne supporte pas qu'on me fasse un discours moral, je veux bien qu'on me parle de morale, mais je ne veux pas qu'on me fasse un discours moral », alors que si le professeur leur fait un discours qui se veut un discours éthique, l'élève l'accepte comme une nouveauté. C'est très étrange, mais au fond, c'est la fragilité de notre société qui confond effectivement peut-être modernité de la parole et sens de cette parole. Alors je reviens à chacune des interventions. Madame Mireille Delmas-Marty, à juste titre, pointait ma réflexion sur la France qui est un des seuls pays au monde à être obsédé par la non-marchandisation du corps. Ça paraît dans l'imaginaire français, la non-marchandisation du corps fait partie, comme liberté, égalité, fraternité, on imagine mal que l'on puisse vendre son sang. Et je me souviens très bien que de l'étonnement de Bernard Kouchner, quand allant à Bruxelles défendre devant la Commission européenne l'élargissement à l'Europe du concept du don anonyme, bénévole et gratuit du don du sang, il s'est heurté, à sa surprise, à une opposition majeure de l'Europe. Et pour les Français, que ce concept soit battu en brèche par l'Europe apparaît extrêmement étrange, comme si nous étions dépositaires d'une universalité. Et là, la vraie question, c'est pas forcément d'être enfermé dans un concept de non-marchandisation du vivant qui, comme chacun d'entre vous ici, est probablement intérieur comme une sorte d'évidence. On ne vend pas son sang, on ne vend pas sa moelle, on ne vend pas ses organes. Mais en même temps, à partir du moment où l'assurance maladie française participe indirectement à la marchandisation du corps, la vraie question, c'est de lier non-marchandisation des organes et conséquences sur la marchandisation sur le plan économique. Et dans ce domaine, je pense que la question est très ouverte. Non pas qu'il faille la remettre en question, mais de savoir quelles conséquences cela a. L'Iran a eu une position, Dieu sait si c'est un pays qui n'est pas en dehors de sainteté, qui est plutôt diabolisé, mais l'Iran, je n'y ai pas été récemment, mais d'après ce que je crois savoir, a demandé à l'État de prendre en compte l'achat des organes aux citoyens. Il les paye, il leur donne une bourse, leur permet d'être pris en charge toute leur vie, et a évité théoriquement la marchandisation au prix du marché. Bon, je ne sais pas si c'est idéal ou pas, mais au moins, il y a des réflexions qui doivent mêler les principes éthiques de la non-marchandisation et la conséquence en termes économiques sur le plan de cette marchandisation. Quant à la réflexion éthique, je pense que si l'Europe, c'est très étrange quand les Africains ou les Asiatiques viennent nous demander sur quoi fondez-vous votre éthique et qu'ils nous disent quand ils voient des Belges, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Lituaniens, des Anglais, des Suisses qui arrivent dans leur pays et qui chaque fois arrivent avec un corpus éthique différent. Ils se disent, écoutez, lorsque vous serez mis d'accord sur un certain nombre de principes, nous vous écouterons. Et il est vrai que j'avais fait tous mes efforts durant ma présidence pour associer, et je crois que c'est continué avec le président actuel Jean-Claude Ameisen, un lien avec l'Allemagne et l'Angleterre. Et on s'aperçoit à ce moment-là que quand on sort de ces frontières, la richesse de la réflexion fait que l'éthique prend un souffle entre une dimension qui prend en compte des aspects culturels différents et qu'elle ne se réduit pas à une culture nationale. Et je pense que l'éthique, par essence, est transnationale. On ne s'arrête pas à la frontière entre la Belgique et la France. On peut, au fond, la richesse, c'est la discussion entre divers comités, mais pas une discussion formelle dans un symposium où chacun vient faire son discours, mais qui prenne en compte les contradictions, au fond, ce qui nous gêne. Et ce qui est toujours intéressant dans la réflexion éthique, c'est la remise en cause de ses convictions. Si j'avais à garder un seul souvenir de ma présidence au comité, c'est le fait que mes convictions étaient sans cesse ébranlées par le discours de l'autre. Et le discours de l'autre était fondateur d'une nouvelle réflexion. Et que l'éthique, c'est pour ça qu'elle a un côté dynamique, c'est-à-dire qu'elle est sans cesse en création. Elle n'est pas le nulle part, elle est sans cesse une espérance que la rencontre de l'autre vous élèvera plutôt que se transformera en affrontement.
Donc, Monsieur Pébreau, vous parliez au fond de l'éthique de la mondialisation, et je pense que nous avons échoué, parce que toutes les conventions mondiales de bioéthique sont plus désespérantes les unes que les autres. C'est un marché perçant, au sens ancien du terme, où chacun vient défendre ses privilèges, ou vient défendre ses avis, mais il n'y a pas d'échange. Et il y a plutôt des enjeux de pouvoir. Je me souviens que c'était du temps de Madame, c'était le président Clinton, je crois, que sur le clonage, où j'avais proposé que au moins cette question du clonage humain, l'ensemble de l'humanité pourrait se pencher sur le chevet du clonage en faisant une valeur mondiale. Je me souviens que la représentante américaine m'avait reproché d'avoir proposé ce sujet comme étant un sujet qui mettait en péril telle ou telle avancée scientifique. Donc on voit très très bien que la difficulté, au fond, dans un monde multiculturel, d'affronter des questions qui me paraissaient pourtant aussi évidentes que celles-là. Monsieur Darcos, vous parliez effectivement de la différence entre éthique et morale. Il est évident que la morale, qu'on le veuille ou non, a un côté normatif. Elle a un côté normatif historique. On pourrait interroger les citoyens sur le fait que la morale, elle est familiale, elle est dans un pays, elle est dans un groupe humain, mais elle a un aspect qui semble venir de l'extérieur, dans une tradition inscrite, quand je disais dans une atemporalité, c'est-à-dire qu'elle est, elle nous précède. Je ne dirais pas que l'éthique est à inventer, parce que nous sommes tous des héritiers d'une tradition, il n'y a rien de pire que de se sentir à l'aube d'une humanité. Nous sommes les héritiers d'une humanité qui nous a précédés. Et pourtant, le monde, est-ce qu'il change, est-ce qu'il ne change pas, est-ce qu'il change apparemment, en fait, qu'il ne change beaucoup moins en réalité qu'il ne change en superficie. Le sentiment est tout de même que cette morale, nous en héritons. Et que l'éthique, nous en héritons moins sur le plan conceptuel. C'est une dynamique exploratoire. C'est comme si l'éthique était plus adaptée, mais tout ça c'est très superficiel, était plus adaptée aux questions concernant les biotechnologies, concernant les marchés financiers, concernant l'environnement, que la morale qui est très embarrassée, n'ayant pas les outils peut-être conceptuels pour aborder le réchauffement, les subprimes ou les particules diesel. Et que ce n'est pas la modernité de l'éthique qui est en cause, c'est plutôt le fait qu'elle se méfie de l'héritage et qu'elle reprend, sinon à zéro, elle reprend la charrue et elle recreuse. Et elle recreuse indéfiniment le sujet pour l'élargir et ne jamais dire c'est un sujet que nous ne remettons pas en question. Au fond, l'éthique a ce mélange d'orgueil et d'humilité. D'orgueil en se saisissant sans cesse de sujets nouveaux, d'humilité en disant qu'elle est probablement incapable de donner la solution. Elle est là pour qu'aucun sujet ne soit escamoté. Ce qui m'a toujours un peu gêné quelquefois, c'est que les questions ne soient pas remises à jour. Et peut-être que dans la question sur la transparence qui a été posée par M. Trichet, c'est ici que, c'est pas le mot transparence au sens vitre du terme, c'est-à-dire que elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur
n'ayant pas de pouvoir. Parce que si l'éthique a du pouvoir, c'est la pire des choses. Au fond, j'ai toujours dit que si un gouvernement se revêtait d'éthique, la tentation totalitaire me paraissait la plus grande. Le problème, ce n'est pas de se revêtir d'éthique, c'est d'être attentif et de demander à l'éthique sans cesse, au fond, de lui poser des questions embarrassantes, de lui montrer des contradictions. Le politique, il est là pour, c'est sa noblesse, faire des choix pour le vivre ensemble. Mais il a besoin quelquefois de l'éthique pour être, non pas éclairé sur la voie, mais d'être contraint à ne pas écarter des sujets qui pourraient le gêner. Mais vous savez, Paul Ricoeur disait « l'éthique a besoin de morale et la morale a besoin d'éthique ». Donc il est évident que les deux s'articulent et que c'est un peu illusoire, artificiel de les opposer l'un à l'autre. Je peux dire simplement, témoigner de mon expérience au comité d'éthique, où la morale était un mot absent à tort. Mais dans notre société, je pense que la morale, elle est toujours présente, mais elle n'a pas, et comme je crois que le président, vous le soulignez à juste titre, la morale a cette capacité d'avoir un nouvel uniforme qu'elle appelle éthique pour être plus adaptée au jugement des citoyens. Donc, Madame Del Sol, je vous posais aussi la même question et j'ai envie de vous répondre que par le caractère exploratoire de l'éthique. La morale est-elle aussi exploratoire ou est-elle aussi demandeuse d'exploration que l'éthique? J'en doute. Je pense que quand le discours moral, on peut porter un jugement différent, mais il est là. L'éthique, elle est à construire. Pourquoi quand nous avions des rencontres avec les Allemands et les Anglais, nous ne savions pas sur quoi nous allions déboucher. Nous n'avions pas de morale en surplomb. Et nous avions à construire ce qu'une humanité au XXIe siècle attend des scientifiques. Et justement, dans le rapport entre science et éthique, je crois que c'était M. Ménard qui disait, au fond, l'éthique, la science et la morale sont trois composantes qui doivent être ensemble. Je crois que l'éthique n'est pas la bonne conscience de la science. Il n'y a rien de pire qu'un scientifique qui dit « ma recherche est éthique ». Il n'y a rien de pire qu'un médecin qui dise « mon activité professionnelle est éthique ». Quand j'entends un professionnel, un chercheur, un scientifique dire « je suis éthique », je prends mes jambes à mon cou. Je prends mes jambes à mon cou parce que cela veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'était l'éthique. L'éthique, c'est ce que disent les autres de lui. C'est pas lui qui veut parler de lui-même. Autrement dit, la science, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est certes potentiellement idéologique. On l'a très bien vu avec Fritz Haber, dont je parlais tout à l'heure, au nom du patriotisme allemand de pouvoir lancer des gaz d'hypérite. Mais la science n'est pas éthique en elle-même. Elle n'est pas inéthique. Le problème, c'est que la façon dont la science va être utilisée peut susceptible de faire porter un jugement éthique. Bon, M. Béchler parlait aussi, au fond, de la différence entre éthique et morale. Je ne suis pas absolument sûr d'avoir contribué à l'éclairage. Je voulais simplement redire de façon peut-être excessivement réitéré que pour moi, l'éthique n'est pas un corpus préexistant à la pensée. C'est une pensée qui est sans cesse en mouvement avec l'obsession que l'autre est ma finalité plutôt que moi-même. Et c'est pour ça que l'éthique ne peut pas se revêtir de pouvoir. Et quand il y a des éthiciens qui, au nom de leur institution, au nom de leur science, se considèrent comme dépositaire d'un pouvoir, je pense que c'est en contradiction absolue, essentielle, avec l'éthique. M. Collomb parlait effectivement, au fond, de ce paradoxe. Je ne peux que lui dire ce que je viens de dire précédemment. M. Pébreau revenait sur, au fond, l'élaboration d'un code éthique. Je pense que l'élaboration d'un code éthique est contraire à l'éthique. Les lois de bioéthique, je ne sais pas ce que Mireille Delmas-Marty en pense, mais je pense que le mot « loi de bioéthique » est un mot étrange et qui est contradictoire, qui est un mot, un oxymore. À la limite, une bioéthique ne peut pas être légale. On pourrait très très bien avoir, je sais pas, un autre mot qui fait qu'effectivement qu'on a besoin de loi pour pas que ce soit le désordre sur l'usage des biotechnologies. Mais ces lois sont plutôt destinées à ce que le vivre ensemble ne mette pas en péril un certain nombre de personnes, plutôt que ce que, au fond, l'État se mêle, peut-être quelquefois abusivement, de tel ou tel comportement. Le problème, c'est est-ce que tel ou tel comportement remet en cause le vivre ensemble pour le plus grand nombre, qui devrait être l'obsession politique. Et que l'élaboration d'un code éthique ou des chartes éthiques sont très troublantes parce que elles apparaissent nécessaires. L'Institut Pasteur, j'ai été membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur pendant 10 ans, a fait une charte éthique. J'ai tout fait pour ne pas y contribuer parce que je pense que c'est très bien d'avoir des principes, d'avoir des lignes directrices, mais pas forcément de les appeler éthiques. Elles sont là pour que le chercheur ait des orientations, alors qu'il les appelle éventuellement morales, mais le chercheur n'aime pas beaucoup, qu'il les appellerait éthiques, c'est plus facile, mais je pense que ni l'un ni l'autre ne sont adaptés à des conduites qui doivent être rappelées pour que les chercheurs gardent une dignité dans leur recherche. Et c'est pour ça que les codes d'éthique me paraissent quelquefois plus dangereux dans la mesure où ils vont enfermer, avoir une espèce d'idée pseudo-légale d'une activité qui, hors ce corpus, pourrait se dérouler dans des conditions qui peuvent être tout à fait insupportables. Monsieur Trichet, vous parliez donc de la transparence. Je crois que la transparence, pas plus que... Les principes de transparence, les principes de précaution ne sont pas éthiques. Ils ne sont pas non éthiques. Le problème, c'est l'usage de cette transparence. Et que l'affichage de la transparence peut conduire... Je ne suis pas spécialiste des marchés financiers, mais on peut imaginer que cela pourrait aboutir à déstabiliser une structure destinée au plus grand nombre. Je ne suis absolument incompétent dans ce domaine, mais la transparence ne peut pas se revêtir d'éthique. D'abord parce qu'elle est impossible à faire de façon permanente. Chaque mot écrit ne peut pas être immédiatement transparent. C'est peut-être d'ailleurs le danger d'une transparence excessive des réseaux sociaux qui aboutit à ce que l'humanité perçoive brutalement l'inconvénient que chaque pensée, chaque mot écrit finit par être présent dans l'espace public au détriment de celui qui l'a écrit. Professeur Vacheron parlait du CCNE, de sa collégialité. Il n'y a pas de vote au CCNE. Alors, Jean-Claude Amezène, qui est là, a été contraint, je pense, je ne vais pas me substituer à lui, de faire voter à l'occasion d'un avis sur la fin de vie, parce que peut-être n'était-il pas arrivé à obtenir un avis consensuel, mais il est arrivé peut-être une seule fois sur 70 avis de faire voter. Et je me souviens que Jean-Pierre Changeux, mon prédécesseur, voulait que l'on vote. Moi, je me suis toujours opposé au vote parce que je pense qu'on peut donner des avis divergents, mais sans que les personnes soient nommées. on ne dit pas tant de voix. Je pense que si on vote, la tentation peut être celle du pouvoir. Et je pense que, en tout cas, il n'y a pas eu, ou il y a il y a quasiment jamais de vote qui soit à main levée ou à bulletin secret. Et font l'intérêt du CCNE, c'est la bonne volonté de ses membres, sa collégialité, le fait que les membres se respectent les uns les autres, qu'ils soient plus intéressés par l'avis de l'autre que par leur propre avis, et que c'est la construction, c'est une co-construction. Si le CCNE adopte les avis du seul président, ce n'est pas le CCNE. Le CCNE, c'est la capacité d'écouter, comme, à mon avis, je n'ai jamais vu dans ma vie d'autres institutions de ce type. C'est l'opposé d'une structure de pouvoir. C'est l'opposé d'une structure qui distribue des prébendes ou qui va distribuer des postes de direction. C'est une société, c'est un comité qui tente désespérément de trouver une voie de réflexion la plus profonde possible, la plus ouverte possible, et avec une assez grande, et même je dirais presque une totale indifférence à l'usage qu'en fera le politique. Et enfin, Monsieur Bourgeois, vous disiez que j'étais sévère. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas une question de sévérité, c'est peut-être ma naïveté. Ma naïveté de dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que j'ai été quelquefois heurté quand le politique considérait que le CCNE devait être aller dans un sens ou dans un autre. Si j'étais plus précis, je dirais que sous la présidence du président Chirac, cette relation était une relation courtoise, relativement facile, et le CCNE n'était pas en situation de contrainte. Sous la présidence du président Sarkozy, le CCNE a perdu beaucoup de son identité au sens où il n'était pas requis, il n'était pas interrogé, et il finissait, au fond, par travailler en autarcie. Sous la présidence du président François Hollande, on est peut-être dans une situation nouvelle où le CCNE a une place que je pourrais considérer comme peut-être porteuse d'ambiguïté dans la mesure où, sans cesse, en termes de communication, on dit que le CCNE va être sollicité pour donner un avis avant qu'une loi ne soit faite sur tel ou tel sujet. Et je pense que le CCNE a, et c'est d'ailleurs, je pense, sa fonction actuelle, son président, que je respecte et pour lequel j'ai beaucoup de vraiment d'admiration, c'est de ne pas se laisser prendre au jeu des commandes et de pouvoir retrouver sa temporalité propre plutôt que celle de la temporalité du politique. La temporalité du politique est une temporalité à courte vue, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. L'éthique est sans temporalité précise. Et que le plus grand danger, comme je le disais, d'un comité d'éthique, c'est le pouvoir, c'est plutôt son capacité de creusement, de clairage et de dimension critique. Alors, derrière l'éthique se cache la morale, et c'est d'ailleurs ce que je disais dans cette intervention, c'est que, au fond, l'humanité ne se débarrasse pas comme cela d'une tradition morale du bien et du mal, héritée des religions, qui est au fond, au sein de nous-mêmes, une sorte de petite vigie. On sait très très bien ce qui est de l'ordre de l'ambiguïté, de l'approximation, de l'opportunisme, de ce qui n'est pas très très clair. Même si on se le cache, on sait très très bien là où est le bien et le mal, et je pense que ce n'est pas au XXIe siècle qu'on va réinventer des valeurs nouvelles. Simplement, c'est que je crois que la responsabilité actuelle de l'éthique, c'est d'être héritière de la morale au sens traditionnel du terme, mais d'être sans cesse en position de recherche, en position, je dirais presque quelquefois, d'impertinence, d'insolence. Et c'est dans ce domaine, peut-être, que ma parole vous a paru cruelle ou insolente.
Merci. Madame, s'il vous plaît. Non. Madame Delmas-Marty souhaitait reprendre brièvement la parole. Vous l'avez brièvement, madame.
Vous m'avez interpellée, en quelque sorte, sur la notion de loi bioéthique. Alors, moi, je vais vous dire, j'aime beaucoup votre idée d'une bioéthique, d'une éthique, plus exactement, comme une dynamique, comme un mouvement. Et en vous écoutant, ça me faisait penser à un texte de Teilhard de Chardin où il distingue la morale de l'équilibre et la morale du mouvement. Alors, on pourrait dire que la partie juridique, c'est l'équilibre, mais l'éthique, c'est le mouvement, d'où l'impression d'une contradiction apparente. Voilà. Mais encore une fois, merci pour cette image extrêmement, extrêmement éclairante d'une dynamique et d'un mouvement, d'une dynamique exploratoire. Ce sont les mots que je retiens. Merci.
Oui, merci infiniment, Monsieur le Président. S'engager intellectuellement, de façon résolue, comme vous l'avez fait, lorsqu'il s'agit de la morale, ça n'est pas simplement faire preuve de vertu intellectuelle, mais je crois aussi de vertu morale. En tout cas, un très grand remerciement pour cet exposé magistral et cette réponse de même ordre que vous nous avez apportée. Merci. Thank you.